Monde Noir, suite et fin. Donc Jacques, tu vas nous parler de une suite, justement.
Oui, enfin, c'est le sixième tome...
Une série, on va dire,
voilà,
excuse-moi.
Le sixième tome de la série « Les nouveaux mystères de Marseille » qu'écrit Jean Contrucci. Ce tome-là s'appelle « Les diaboliques de Maldormé ». Il est publié chez Jean-Claude Lattès pour 15,50 €.
Oui, je précise par rapport à ma belle adresse du début qu'on peut lire ce livre sans du tout avoir lu les précédents.
Tout à fait. C'est la sixième enquête donc du tandem Raoul Signoret, qui est reporter au Petit Provençal, et Eugène Baruteau, qui est son oncle, et le directeur de la police de Marseille. Au début de ce roman, nous sommes en 1906, au tout début de l'été, et le notaire Théophile Desautels vient d'être retrouvé pendu à l'espagnolette de sa chambre.
J'espère que la fenêtre, elle était assez haute, parce que sinon...
Oui, oui, apparemment, c'est les grandes maisons.
Là. Maisons bourgeoises.
Voilà, crime ou suicide. Autre fait troublant, la bonne, Mariette, a disparu cette même nuit.
Les amours en silaire.
Voilà, les soupçons se portent très très vite sur la gouvernante, qui s'appelle Liselotte Hullmann.
C'est pas marseillais, ça.
Non, c'est pas marseillais, elle est allemande. Et les soupçons se portent sur elle, pourtant elle a été retrouvée attachée sur son lit. Mais en fait, en 1906, l'esprit de revanche est très fort, et une Allemande, à partir de la guerre de 1870, je dis ça pour nos jeunes auditeurs qui ne sont pas tout à fait au courant de l'histoire, et l'esprit de revanche donc est très fort, et une Allemande donc fait une coupable tout à fait toute désignée.
Surtout dans les couches, on va dire, populaires.
Voilà. Le procès est assez vite expédié et elle est condamnée. Mais Raoul ne s'en laisse pas compter et les habitants du village de Maldormé, en fait de Malmousque, en fait, qui est donc un des quartiers de Marseille, comme chacun, je précise, je fais une petite parenthèse, chacun des romans de Jean Contrucci se passe dans un des villages de Marseille, parce qu'en fait Marseille, c'est 110 ou 112, 113 villages différents. Et c'est pas vraiment des quartiers. Donc, ça se passe dans le quartier de Malmousque, dans l'anse de Maldormé, qui est donc au bord de la mer. Pour vous préciser ça, pour ceux qui connaissent un petit peu Marseille ou qui ont vu ça, c'est à quelques centaines de mètres de l'endroit où il y avait la grande, immense affiche de Zinedine Zidane.
Surtout un très, très beau coin de mer.
Et un très, très beau coin de mer. Et un super café que la mairie a détruit.
Bon, on pourrait revenir à la littérature.
On repasse au livre. Donc, en fait, Raoul Signoret, je disais donc, ne s'en laisse pas compter. Et les habitants du village de Malmousque n'ont qu'à bien se tenir. Il va tout faire pour découvrir le véritable assassin, quitte à s'user la santé sur son vélo. Parce que monsieur se déplace surtout en vélo, et pas n'importe quel vélo, un gladiator. Regardez sur internet, les gladiators à l'époque, c'était quelque chose. Donc, comme à chaque fois, en fait, dans cette série des nouveaux mystères de Marseille, n'allons pas trop vite... Le lecteur est aux anges. Il retrouve ses héros favoris, Raoul et Eugène, mais aussi la belle Cécile, qui est la femme de Raoul, toujours prête à se mêler à l'enquête pour aider son mari. Et en plus, comme elle est infirmière, on ne se méfie jamais d'une infirmière qui vient faire une petite piquouse et qui peut entendre des piqûres et qui peut entendre des choses et d'autres qu'on dit comme si elle n'était pas là. Il y a aussi quelques personnages secondaires qui sont tout à fait délicieux, qui font une apparition ou qui reviennent de temps en temps. Ici, là, qui apparaît pour la première fois, c'est l'ex-journaliste sportif Placide Boucard. Il vit lui-même dans le village de Malmousque. Il connaît tout le monde et son aide sera très très précieuse à Raoul. Et il parle tout le temps en ponctuant ses phrases d'extrait d'opéra. Donc, ça donne une petite...
Non, merci.
Et il y a aussi dans ce... un personnage sympa, qui c'est le jeune Riri, qui est un simple d'esprit, le fada du quartier. Il n'est pas méchant, mais il va être aussi assez facile de lui mettre tel ou tel forfait sur le dos, vu qu'il ne peut pas trop se défendre. À chaque fois, comme à chaque fois dans ses romans, l'écriture de Contrucci est superbe. Il emploie à la fois cette langue française du début du XXe siècle, ou de la fin du XIXe pour les premiers romans, qui est délicieusement désuète, et qui mêle d'expressions marseillaises ou provençales qui avaient cours à l'époque, qui ont toujours cours pour certaines de nos jours.
Je précise que ce n'est pas du tout lourd ou pas du tout embêtant à lire, comme on pourrait penser avec un langage très châtié, un peu, comme tu dis, désuet, et qu'au contraire, c'est très fluide et c'est un régal de lecture.
Voilà, le style est impeccable et au service d'une intrigue qui est embrouillée juste comme il faut. Enfin, c'est l'idéal pour passer un moment. Et puisque tu le dis, en fait, je voulais juste préciser quelque chose. C'est pas du tout des romans qui sont réservés aux lecteurs de Provence-Côte d'Azur. On peut très bien les lire. D'ailleurs, pour nos nombreux lecteurs qui nous écoutent sur tvradio.com, dans le monde entier. On peut très bien les lire n'importe où dans le monde. C'est absolument pas, même si l'action se déroule dans les villages de Marseille, les problèmes des petites gens confrontés au pouvoir et aux abus des notables sont malheureusement universels. Donc ça concerne tout le monde, tout comme les réactions d'intolérance envers les étrangers ou les handicapés, qui sont encore et seront, hélas, encore pendant un moment d'actualité.
Et ce sont des romans qui sont très, très documentés, puisque à chaque fois, on retrouve quand même des faits qui ont été... Qui sont vrais, en fait. C'est-à-dire que ça part de faits divers qui se sont vraiment passés, où il décrit des entreprises ou des choses qui avaient vraiment lieu à Marseille à cette époque-là.
Bah là, c'est comment c'est le notaire ou son clerc, qui réussissent à faire quelques petites magouilles pour emporter des terrains, etc.
Alors, je ne sais pas si tu l'avais précisé, mais c'est donc toute une série dont le sous-titre est « Les nouveaux mystères de Marseille », qui montre bien le but de...
Je crains de l'avoir précisé.
Mais je ne t'écoute pas, c'est tout. Si jamais vous voulez découvrir, avant d'acheter ce grand format, et que vous voulez commencer par les premiers, en particulier l'énigme de la Blancarde et la faute de la Berrichaud, sont maintenant en format poche. Donc,
aux éditions...
C'est une bonne question.
Le livre de poche,
voilà. Donc, si on veut les suivre, petit à petit, ils ressortent en poche. Et ça, c'est vraiment très, très agréable de suivre l'évolution de Raoul Signoret, qui commence tout, tout jeune et qui a déjà pris 10 piges, là, hein, à peu près.
Oui, hein, sa petite fille, elle a 7-8 ans, donc...
Voilà, on va
changer de pays, de style et d'interlocuteur.
Et de température, puisque je vous emmène en Suède. Pour le troisième tome de Millennium, celui-ci s'intitule « La reine dans le palais des courants d'air ». Son auteur en est Stieg Larsson et c'est paru il y a 2 mois au Actes Sud Noir. C'est donc le troisième et le dernier opus de la série, mettant en scène le journaliste Mikael Blomkvist et Lisbeth Salander. Lisbeth Salander, surdouée de l'informatique. Alors, contrairement à ce qu'on vient de dire pour le livre de Jean Contrucci, là, j'estime qu'il faut absolument avoir lu les précédents, ou tout au moins le précédent, pour entamer celui-ci. Puisque c'est un petit peu comme certaines trilogies cinématographiques, les fidèles s'en souviendront, les lecteurs avaient laissé Salander, donc la jeune femme, salement amochée par son père et son frère, à la fin du deuxième tome. Donc, on la retrouve tout naturellement sur un lit d'hôpital et dans le coma. C'est pas tellement pour sa santé qu'on va s'inquiéter, mais plutôt pour son avenir. Son père, on le découvre petit à petit, c'est un ex-espion, c'est dur à dire ça, soviétique, qu'elle a lui-même blessé qui est dans la chambre voisine. Évidemment, les services très très secrets suédois s'affolent parce qu'ils sentent que certains arrangements pourraient, à cette occasion, être dévoilés par la presse. Pour certaines personnes, Salander, puis le journaliste Blomkvist, sont à éliminer coûte que coûte, quels que soient les dommages collatéraux. Lisbeth est bloquée sur son lit d'hôpital. Elle risque à nouveau d'être enfermée en établissement psychiatrique, parenthèse, voire les précédents tomes. Et on fait tout pour qu'elle soit enfermée afin que ses secrets honteux ne soient pas divulgués au public. Et elle va donc suivre impuissante, puisque enfermée dans l'hôpital, la lutte sans merci à laquelle va se livrer Blomkvist, aidée quand même par un petit groupe de flics et de journalistes, il en reste quelques intègres, et qui sont tous très inquiets de voir, carrément on peut dire, la démocratie en péril. En face, des individus avec des pouvoirs immenses, qui sont prêts à tout pour sauver leur peau et ce qu'ils pensent être une certaine justice. Premier tome, je vous le rappelle, ça s'appelait « L'homme qui n'aimait pas les femmes » et ça traitait des milieux d'affaires. Le deuxième, avec un titre très, très, très compliqué, dont je ne me souviens plus, mais dont je vous parlerai tout à l'heure. La petite fille aux allumettes, mais c'est plus du tout ça. Je ne sais plus. Donc, le deuxième tome parlait de trafics internationaux en tout genre. Celui-là, il s'attaque carrément aux dérives du système politique, lorsque des soi-disant secrets d'État justifient toute exaction. La question, est-ce que de tels actes sont possibles dans nos belles démocraties ? Bah oui, carrément. Et Stieg Larsson, qui fut un journaliste d'investigation brillant, nous livre sa réponse, qui a vraiment de quoi nous faire froid dans le dos. C'est indispensable si on a lu les deux premiers volumes, mais je dois dire quand même que c'est pas le meilleur des trois. Une écriture un peu moins travaillée, des histoires parallèles peu abouties ou menées à la va-vite. La fin est un peu expédiée. Et c'est dommage parce que ce sera le dernier que nous livrera Stieg Larsson, puisque malheureusement...
Bien qu'il paraîtrait qu'il y a un quatrième dans son disque dur.
Oui, mais ça, je crois que c'est une grosse légende. Il est décédé d'une crise cardiaque quelques semaines après avoir livré ses trois tomes à un éventuel éditeur. Il ne savait même pas qu'il allait être publié. Donc, c'est très, très, la trilogie est très recommandable. Des thrillers haletants. Et qui dénonce un pays, qui dénonce dans un pays qui fut longtemps cité comme un modèle de démocratie, donc je rappelle la Suède, les abus des pouvoirs politiques et économiques tenus par des hommes qui pensent être définitivement au-dessus des lois. Donc Jacques, tu vas m'aider à retrouver ce deuxième.
Je vais répéter, donc le premier dont tu as parlé tout à l'heure s'appelait « Les hommes qui n'aimaient pas les femmes ». Le deuxième s'appelait « La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette ».
Voilà, c'est ça. J'avais oublié le bidon d'essence. Ça va avec les allumettes pourtant. Hein.
Et le troisième, donc, la reine dans le palais des courants d'air.
Des gros pavés, mais c'est pas péjoratif du tout.
De 700 pages.
À chaque
fois. Et puisqu'on parlait de cadeaux de Noël, je pense que les éditions Actes Sud vont les servir en coffret des trois.
Oui, tout à fait. Et pour la modique somme de 68,50 €, vous avez plus de 2000 pages de lecture. Mais ceci dit, ils peuvent toujours s'acheter individuellement. Je précise que celui-ci, le dernier, La Reine dans le Palais des Courants d'Air, est à 23 €. D'autre part, j'avais oublié, et c'est important de citer les traducteurs, Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Marc de Gouvenin, qui est d'ailleurs le directeur de cette collection Actes Sud Noir.
Un peu de musique, qui n'a strictement rien à voir. Le morceau s'appelle Lacrima Christi. Et
très bon vin.
Voilà, et puis
très,
le Christi,
très bon vin italien.
Voilà, puisque bientôt, il va bientôt naître le Christi. Et donc, c'est un duo entre Nguyen Le, guitariste français d'origine vietnamienne, et Paolo Fresu, guitariste italien d'origine
sarde.
Trompettiste italien d'origine sarde.
Part dans la gastronomie avec une bien étrange affaire, Jacques.
Voilà, finalement, c'était pas si mal choisi ce morceau puisque ça sonnait un petit peu asiatique. Et donc, le livre dont nous allons parler est un livre de Pascal Vatinel qui s'appelle L'affaire du cuisinier chinois, qui est publié aux éditions du Rouergue pour la somme de 19 €. C'est un gros livre. L'histoire se passe pour commencer quelques 500 ans avant notre ère dans le royaume de Qi. ou le jeune cuisinier génial.
Ou, qui ? Pardon.
Oui, très amusant. Le jeune cuisinier génial et inventif du palais royal, qui s'appelle Zhang Chengfu, est accusé d'empoisonnement. Il est rapidement fait prisonnier, il est condamné à mort après quelques tortures raffinées pour le faire avouer. Malheureusement, son seul crime était d'être tombé amoureux, avec réciprocité, de la belle princesse du royaume de Qi.
Et le rossignol chanta.
Voilà. Près de 2500 ans plus tard, donc, de nos jours, un chercheur, Li Zhuendo, découvre dans des fouilles des rouleaux de bambou, vieux de près de 25 siècles. Pardon. C'est une découverte qui va lui attirer les foudres de son ennemi et malgré tout collègue, le professeur Song, qui est jaloux de sa renommée et qui va tout faire pour le faire tomber. Li est aidé par son ami Wang Pei. Ils ont partagé.
Ah, ils t'ont pas aidé avec les,
non, c'est sûr.
Les héros, là.
Ils sont amis, bien qu'ils aient partagé l'amour d'une même femme, qui va traduire pour lui les textes inscrits qui sont inscrits sur des rouleaux. Hélas, les textes disparaissent du bureau de Wang Pei avant que Li n'ait pu les présenter à la commission des fouilles archéologiques, qui va décider à qui va attribuer les fonds et la direction des fouilles. On suit en parallèle les deux. Je raconte beaucoup, mais parce que l'histoire en fait est assez importante, mais c'est plutôt la façon dont c'est raconté qui est bien. On suit en parallèle les deux histoires. On va voir comment les amis du jeune cuisinier, le chambellan confucianiste et le prêtre taoïste vont ourdir un plan machiavélique. Machiavélique ne naîtra que 2000 ans après.
Machiavel.
Voilà, Machiavel, oui. Pour déjouer les plans du clan du ministre Gao qui a fait emprisonner le jeune cuisinier. D'autre part, on va voir le coup monté par Li et Wang, une ruse assez inspirée de celle de leurs ancêtres, pour prouver que le professeur Song a lui-même détourné les résultats de son collègue pour se les approprier et faire d'immenses bénéfices immobiliers dans cette Chine qui est devenue post-révolutionnaire.
Chine d'ailleurs, oui. Voilà. Je ne dirai pas la marque des
Si tu veux m'interrompre pour dire des bêtises, tu peux.
On coupera
au montage, c'est pas grave. Tout est brillamment, c'est très brillamment écrit par Pascal Vatinel, qui est un sinologue, n'est-ce pas, si j'en crois à la quatrième de couverture. Un grand connaisseur de la Chine, donc. Il mêle avec brio les deux histoires, et même si on devine parfois la fin, enfin du moins où il va en venir, l'intrigue est très bien menée. La fin s'accélère comme dans un thriller américain. On passe allègrement du Shanghai du 21e siècle au royaume de Qi de moins 450 avant JC qui va bientôt naître.
Bah, toujours lui.
Simplement, changeant de chapitre. Mais c'est bien entendu les manuscrits qui ont été découverts et déchiffrés qui font le lien entre les deux périodes. Le contraste entre les deux Chines, celle ancestrale et moderne, est très très bien rendu. C'est en fait à la fois amusant et instructif, divertissant et exotique.
Bref, tout pour plaire.
Bref, voilà. Et c'est un véritable polar. Et en plus, comme c'est un sinologue, en plus, il nous raconte un peu la poésie, la philosophie et l'histoire de la Chine, qui avait quand même inventé pas mal de choses il y a déjà longtemps.
Voilà. Donc, c'est aux éditions du Rouergue.
Éditions du Rouergue, il semble se spécialiser dans les romans chinois, puisqu'ils avaient paru les textes de Peter May aussi, qui se passent en Chine.
C'est le quatrième volume.
Bien que ce soit donc en plein Rouergue, donc dans le sud-ouest. L'affaire du cuisinier chinois de Pascal Vatinel, une belle grosse couverture rouge avec un petit chinois dessus.
Eh bien, on va vous souhaiter de très très bonnes lectures au coin du feu. Il faut rester un petit peu au chaud en ce moment. Et puis, trop boire, découvrir de bons plats et de partager de bons moments entre amis. Et on se retrouve l'année prochaine, mais c'est très proche. Bonsoir.
À très bientôt. From the bank heist last night. His best friend was a robber, and his wife was a thief. All the children were killers, they couldn't get no relief. The bungalow was surrounded, when a voice loud and clear said, come on out with your hands up, or we'll blow you out of here. There was a face in the roll. Then they cut to the announcer and the story. Agora vous donne l'heure. 19h sur Agora FM.